Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 19 avril 2024. Très, très, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire. 19 avril 2024, bon, on le voit, la bourse, là, ça brasse pas mal. Et les technos embarquent, là, on va avoir les résultats financiers. On a eu Netflix, on va avoir d'autres technos la semaine prochaine. On a eu les banques américaines qui n'ont pas convaincu tout le monde. Et on a surtout eu des avertissements. Depuis le début du mois d'avril, je regarde les marchés boursiers, là, ça a joué beaucoup dans la baisse. Pas grand-chose à se mettre sous la dent ces temps-ci, mais là, ça ouvre des opportunités. Là, est-ce qu'on se dirige vers une correction boursière? Il y a tout ça aussi qui est dans l'air du temps. Ça avait beaucoup monté, là. Bien là, à un moment donné, il faut digérer, il faut voir un peu, voir plus clair, dissiper et se ressaisir. Il y a eu des ventes. Là, on le voit, il y a des gestionnaires de fonds qui vendent. Et on se ressaisit, surtout sur baisse de taux potentiel aux États-Unis. Là, ça se refroidit beaucoup. Donc ça l'a amené aussi des incertitudes dans le marché. La guerre, Hamas, Israël aussi amène des incertitudes. Pétrole aussi, il y a beaucoup de géopolitique là-dedans. Donc, des semaines où beaucoup de volatilité. On l'avait dit dans le podcast que là, qu'on rentrait dans une phase. Si vous allez écouter les autres podcasts en arrière, là, on parlait là, éventuellement là, d'une phase de peut-être de turbulence. Bon, on est là-dedans. Ça va être à suivre. Beaucoup d'actualités. Conférence, oui. Hey, le téléphone sonne, c'est le fun. Conférence, j'ai plusieurs conférences à offrir. Vous allez sur cachemireplus.com. Conférence notamment sur le grand tour de l'économie. Ce qui s'en vient, là. Toutes les tendances, les prochains mois, les prochains trimestres, 2024-2025. L'économie, comment elle va se comporter. Donc, faites-moi signe si vous voulez que j'aille rencontrer vos équipes, j'ai rencontré vos membres, les organisations, là, voyez-vous, là, j'ai plein d'associations qui me font signe. C'est très intéressant, les exportateurs, s'il y a de l'importation, de l'exportation, si vous êtes moindrement aussi, ce qui s'en vient comme tendance, parce que dans le fond, je le marie avec les tendances, les angles morts de votre industrie. Bon, on fait le tour comme ça, bon, on discute, donc c'est vraiment intéressant. Sinon, ben, pour les écoles secondaires, j'ai aussi une conférence, la peur de l'argent. Oui, ça existe. Il y a des gens qui ont peur de l'argent. Sinon, j'ai une conférence sur les crypto-monnaies. Alors, allez voir sur cachemireplus.com, onglet conférence. Sinon, l'infolette financière, très populaire. Vous abonnez, vous allez recevoir pendant. J'ai des abonnements au mois, j'ai des abonnements 6 mois, j'ai des abonnements à l'année. Le best, c'est l'année, là, parce qu'à tous les mois, vous avez repayé sur votre carte de crédit. Tandis qu'à l'année, bien, vous payez une fois, puis c'est correct. Vous avez 48 infolettes. Sinon, bien, 4 infolettes par mois, 8 $ par mois. Et c'est des titres boursiers à surveiller. Là, c'est crucial parce que ça a baissé. Là, ça repart. Il y a des titres intéressants à surveiller. Donc, vous allez sur cachemireplus.com, infolette financière. Tout est là. Vous abonnez. Et en même temps, vous encouragez le podcast parce que ça nous donne des revenus hein, pour le podcast. Sinon, les annonceurs qui vont l'embarquer dans le show, ben, il y a de la place. Ça se corse. Je vous dirais, ça se corse, mais quand même, on va réussir à. Si vous êtes intéressé, on va vous placer dans le show à quelque part. Il n'y a pas de problème. Donc, contactez-nous. Les annonceurs cette semaine, Mallette, tout ce qui est comptabilité, mais également Mallette, c'est rendu gros. C'est rendu. Ils ont des bureaux partout au Québec. On est rendu sur l'île de Montréal. Et il n'y a pas juste la comptabilité, toute l'analyse de données, un plan quinquennal, un plan triennal, notariat, tout ce qui est juridique. On est vraiment complet. Réseau Mallette aussi, les entrepreneurs. Vous n'êtes pas obligé d'être chez Mallette comme client, là, mais il y a un réseau de réseautage. Vous payez, vous allez dans le réseau Mallette et là, on va vous mettre en contact avec des gens dans votre business, dans votre cercle d'affaires. Si vous voulez rencontrer, vous avez la liste des gens qui sont dans le réseau Mallette, vous pouvez faire des rencontres d'affaires. Vous avez du mentorat. Il y a plein de choses, là. Réseau Mallette, on en a parlé dans le podcast. Et toute l'optimisation aussi des processus. C'est assez gros, Mallette, là. Ils sont rendus assez. Puis c'est québécois. C'est un cabinet d'appartenance québécoise. Donc voilà, mallette.ca. Il y a plein de jobs aussi. Allez sur le site web. Il y a plein d'emplois disponibles. Et également, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vos placements sont éparpillés. Là, il y en a qui commencent à paniquer, là. Bien, un conseiller financier va regarder ça, va vous dire, bien, écoute, fais ci, fais ça, puis si tu aimes le plan de match que je te fais, bien, prends-moi comme conseiller financier, finalement. Frédéric va vous analyser ça. Il fait par Zoom. Hein. Il y a, à ce temps, on peut faire ça par Zoom. Vous envoyez vos placements, votre portefeuille, il va analyser ça. Même chose pour les entreprises. Vous avez des comptes d'entreprise. Frédéric va faire fructifier vos comptes d'entreprise. Il en a plusieurs. Frédéric, ça fait 3 ans qu'il est avec le podcast Cachemire et ça va très bien. Donc, frédéricturcotte.com et également le SEO, vos sites web, là, les entrepreneurs, vos sites web qui ne marchent pas. Vous voulez mousser ça, vous voulez faire en sorte que vous apparaissiez dans les premières pages en haut là, sur Google avec le SEO, le Search Engine Optimization, c'est ça? Bien, l'algorithme de Google a changé beaucoup hein, et il faut connaître les clés. ProStar SEO, c'est les kings du SEO au Québec. Éric Saint-Cyr, communiquez avec lui. Éric, il niaisera pas. Là, s'il voit que votre site ou vos produits, il ne peut rien faire pour vous, il va vous le dire. Là, il ne vous fera pas poireauter. S'il peut faire de quoi, bien, il va vous prendre et il va vous amener là où vous voulez aller. Alors, ProStar SEO, Éric est chroniqueur aussi. Ils ont fait des chroniques sur le SEO. Allez écouter les dernières chroniques. Ça va vous donner une idée. Il y a beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup là-dedans. Dans le SEO, il y a des choses que je ne connaissais pas. Puis j'ai optimisé mon site web. Puis oui, il y a des clients qui rentrent comme ça. Donc, ProStar SEO. Également, infobref.com, tu es avec nous. Infobref, c'est une infolettre que vous pouvez recevoir chaque jour. Vous allez vous abonner sur infobref.com et vous allez recevoir l'infolettre. C'est une dizaine de petites nouvelles chaque jour et ça vous met quand même assez rapidement là, de ce qui se passe sur la planète. Oui, la planète nouvelle, mais la planète économie aussi. Hey, beaucoup de sujets cette semaine. Le UR bientôt à 70 cents. Notre dollar va se faire ramasser. Là. Déjà qu'on est rendu à 72, 73 cents. Et là, si la Banque du Canada baisse son taux directeur avant les États-Unis, ça se pourrait qu'on se fasse brasser. Fait qu'on va parler de ça. On est-tu piégé par l'économie américaine? On va parler de ça. Est-ce qu'on s'en va vers une correction boursière? On va regarder ça aussi. Tim Horton qui cherche de nouveaux clients. Vous avez vu, on s'en va dans pizza. Est-ce que c'est réfléchi ou pas? On va en parler. L'immobilier, les prix continuent de flamber. On a les chiffres pour Montréal, Québec. Ça continue de flamber. À Québec, là, il y a des hausses de quoi? 20-25% depuis un an. Montréal aussi. Donc, on va jaser de tout ça. Netflix a eu ses résultats financiers. Netflix, ça roule pas à peu près. On va parler du titre boursier aussi. Starbucks s'est fait brasser. Café, moi, j'adore leur café. Starbucks, en passant, je suis un fidèle client. On va jaser du modèle d'affaires. Également, les titres les plus performants au cours de la dernière semaine. Il n'y a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Donc, parfait. Deuxième partie de Pierre Graff, regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. On va jaser d'intrapreneuriat. On part à la recherche d'entreprises qui veulent favoriser l'intrapreneuriat à l'intérieur de leur entreprise. Et ça, ça peut favoriser quand même deux choses. Il y a des divisions qui peuvent être dormantes. Il y a des divisions qui peuvent être prises par des gens à l'interne. Vous leur donnez le mandat de développer la division, puis après ça, ben ces gens-là ben se sentent beaucoup plus impliqués. Vous ne les perdez pas, puis vous leur donnez peut-être des parts dans l'entreprise après ça. Donc, ça peut être une belle façon là, de stimuler à l'intérieur des entreprises, des employés, de la valeur ajoutée, puis d'aller chercher des nouveaux revenus. Voilà, Pierre Graff du regroupement va être avec nous cette semaine. Alors, bonne écoute! Que la Banque du Canada pourrait être piégée actuellement par l'économie américaine? Beaucoup d'analystes croient que oui, et de plus en plus, cette idée fait son bout de chemin. Et quand vous regardez un peu la politique monétaire canadienne de la Banque du Canada, bien, elle s'inspire beaucoup de ce qui se passe au sud de la frontière. On le voit, l'économie américaine et l'économie canadienne actuellement sont à l'opposé. Et la Banque du Canada est dans un dilemme, elle est piégée parce que notre économie est très bien imbriquée à celle des États-Unis. Et là, si on commence à baisser les taux d'intérêt, taux directeurs, la résultante est que le dollar canadien pourrait s'effondrer. Et là, c'est vraiment une question niveau mathématique, mais également de nombre. Là, le Canada, l'économie canadienne n'est quand même pas si imposante par rapport à celle des États-Unis. Et là, oui, c'est un important partenaire, mais si on commence à baisser les taux alors qu'aux États-Unis, ils demeurent plus forts, les taux demeurent élevés plus longtemps, bien, la devise pourrait, comme on dit, casquer. Et là, bien, on pourrait voir un dollar canadien s'effondrer. Certains économistes parlent peut-être d'un dollar autour des 65-66 cents. Il y en a certains qui ont évoqué un 60 cents. Écoutez, là, ça nous ramenait à très longtemps. Là, je pense dans les années 80 qu'on n'avait pas vu ça. Donc, voyez-vous, là, ça peut être ça. Et là, ce que ça ferait, c'est que les Canadiens, ça pourrait repartir le cycle de l'inflation puisque nos produits, sur l'exportation, seraient très en demande. Oui, mais peut-être tout ce qu'on importerait au pays, bien, ça nous coûterait tellement cher les avoir parce que notre dollar chuterait que ça pourrait repartir l'inflation d'une certaine mesure. Donc, voyez-vous, on est un peu dans ce dilemme-là. L'économie canadienne roule quasiment en récession. Là. J'entendais les économistes de Desjardins à Toronto parler de ça. Et on est dans une zone très, très fragile. Hein. On n'est pas sur une économie très très dynamique. Et on est près des 0.50 au Québec. Il y a trois trimestres consécutifs, on est négatif. Au Québec, ça ne se pose même pas comme question. Alors que l'inflation est partie vers le haut. Tant au Canada, le mois dernier, 2,9%. Au Québec, 3,6%. Donc, voyez-vous là, comment la dynamique, on est dans la stagflation. C'est un peu ça qu'on a au Canada. Alors qu'aux États-Unis, l'économie tourne sur un 3,5%. C'est à peu près ça. On est en campagne électorale aussi, une année électorale aux États-Unis. Et quand il y a une année électorale, bien, il y a beaucoup de bûches dans le foyer. Il y a beaucoup d'argent disponible, des aides financières, des programmes, toute la... On s'en va vers les voitures électriques aux États-Unis. On a donné beaucoup d'argent pour transformer tranquillement, décarboner l'économie américaine. Et on est là-dedans de beaucoup de programmes d'énergie verte. Au Canada, c'est pas ça du tout qui se passe. L'économie roule pas. Et vous l'avez vu avec le budget, le gouvernement n'a tellement pas d'argent. Là, un déficit de 40 milliards. On ne voit pas le bout du tunnel. On dépense sans lendemain et on vient chercher davantage d'argent dans les poches de la classe moyenne notamment et des entrepreneurs. Donc, très, très problématique. Et là, ben, si en plus de ça, on n'est pas capable de baisser taux directeur, donc à un moment donné, il va falloir peut-être qu'on en paie le prix. Oui, je pense que on est conscient du côté de la Banque du Canada là, que le dollar canadien pourrait peut-être s'effondrer ou à tout le moins descendre rapidement. Il y a des économistes qui prédisent un dollar sous les 70 cents prochainement. On est autour de 72, 73 cents, là, tout dépendant quand vous regardez. Et on pourrait aller beaucoup plus bas que ça. Donc, ça va être à surveiller. Mais la Banque du Canada est piégée. On parlait de baisser les taux au mois de juin. Est-ce que ça va être le cas? Prochaine rencontre, c'est le 4 juin. On regarde aller cette situation-là et on pourrait peut-être même attendre. Hein? Ça pourrait être à septembre. On dit fin juillet, sinon la prochaine rencontre de la Banque du Canada après le 4 juin, ça va être à la fin juillet et par la suite, ça en va en septembre. Donc, ça pourrait peut-être même aller en septembre, ça va être à surveiller, mais pas pour l'instant. L'économie canadienne semble piéger, la Banque du Canada semble avoir les mains liées par rapport à ce qui se passe à la bonne performance. Habituellement, l'économie canadienne suit un peu ce qui se passe aux États-Unis, mais on ne sait pas du tout. On n'a pas été capable de suivre la cadence. Et une année électorale, bien, il y a quand même une distorsion. Donc, ça va être à surveiller parce que pour avoir un impact important, je parlais avec des gens cette semaine, des gens qui sont dans le... notamment avec les entrepreneurs. Et beaucoup d'entrepreneurs nerveux actuellement parce que si on passe sous les 70$, pour avoir un impact important sur beaucoup d'entreprises qui exportent et qui importent aussi. Et là, on doit refiler cette facture-là encore plus au consommateur qui, lui, est déjà... Donc, voyez-vous, là, ça pourrait faire exploser l'inflation, tout ça. Alors, à surveiller. Que l'on se dirige vers une correction boursière. On a quand même, depuis le début du mois d'avril, beaucoup de secousses. On en a parlé à plusieurs reprises dans le podcast. C'est pas le premier que je fais là, depuis quelques semaines pour vous parler d'un possible ralentissement du marché boursier. Et là, on le voit clairement là, depuis le début du mois d'avril. baisse quand même significative. On a des marchés en baisse d'à peu près 5% sur le S&P 500 et 3-4% là, sur Toronto et peut-être le Dow Jones et le Nasdaq, 3-4% aux alentours d'eux. Là, ça peut changer au moment où on enregistre le podcast. Mais clairement, il y a une tendance. Là, je regarde depuis le début de l'année, au TSX, sont en hausse d'à peu près 3,7% quand même. Au niveau du Dow Jones, on est quasiment revenu au zéro, 0,3-0,2%. Le S&P 500, 5,8%. Le Nasdaq, 5,8%. Donc, c'est un retour assez brutal là, depuis le début du mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, clairement, on voit apparaître de plus en plus des prises de profit, des investisseurs qui regardent aller le marché. On avait eu une hausse assez impressionnante là, entre la fin octobre et fin mars. On avait eu sur le S&P 500 une hausse de 25%. Donc ça a envoyé aussi un message qu'on était prêt pour une pause, une digestion. Et n'oubliez pas qu'on est en année électorale aux États-Unis et là, on ne pouvait pas continuer comme ça sur un air d'aller. Autre chose, on a commencé à voir les résultats financiers des banques, notamment aux États-Unis, mais pour le premier trimestre, le earnings season, c'est toujours le mois suivant la fin du trimestre, là, le 15 du mois. Donc, on a commencé avec les banques et on a eu quand même le banquier le plus influent de Wall Street, Jamie Dimon, de JP Morgan, qui a rappelé qu'on nageait toujours en eau où on n'est pas sûr si on va avoir des baisses de taux aussi rapides qu'on le pensait. On a aussi des conflits Hamas-Israël. On a la guerre Ukraine-Russie aussi et tout ça. Ça fait en sorte que ça amène beaucoup de volatilité, d'incertitude, autre chose. Ce que Jamie Dimon disait aussi, les taux d'intérêt, notamment les taux obligataires, disant les gouvernements sont très endettés pour aller rechercher du financement. Bon, on doit émettre des obligations à des prix beaucoup plus élevés. C'est ce qui fait aussi que ça joue là, dans l'équation. Donc tout ça en sorte qu'on est en train de revivre un rebalancement. Et là, est-ce qu'on se dirige tranquillement vers une correction boursière? Une correction boursière, c'est 10%. Et quand vous regardez un peu là, dans les derniers mois, l'an dernier, correction boursière, si je regarde là un an, ben, on a eu quand même des baisses importantes par rapport à des sommets du 31 juillet jusqu'à la fin octobre. Bon, on avait eu là, presque une correction. Je pense qu'on l'avait eu. On avait un 10% de baisse. Donc, ça arrive au moins une fois par année. Et là, c'est là que c'est important de profiter de ça. Les investisseurs, vous allez avoir des opportunités, clairement. Il y en a qui ont acheté des titres peut-être des derniers mois. Ils ont acheté plus haut. Bien là, c'est peut-être le temps. Parce qu'on sait que ça va repartir. C'est juste timer le marché, ça peut être très difficile. Là. Mais on sait que ça va repartir. Et ça peut repartir assez vite puisqu'il y a beaucoup d'argent sur les lignes de côté. Une année électorale. L'économie américaine va quand même assez bien. On parle de 3 à 3,3% sur un air d'aller pour l'année au complet. Ce n'est pas du tout le cas au Canada. Les taux d'intérêt vont peut-être baisser. Là, on parle peut-être d'une baisse ou deux aux États-Unis. Et même certains analystes évoquaient même pas de baisse, zéro baisse en 2024 et peut-être une baisse à partir de mars 2025. C'est un peu ça qu'on a entendu cette semaine, ce qui a donné une espèce de douche d'eau froide au marché. Jérôme Powell disait « on n'a pas encore atteint ». On n'est pas satisfait de la manière dont l'inflation travaille, est en train de se reformer vers le haut. Aux États-Unis, on est rendu à 3,5% l'inflation. Puis là, vous le voyez avec les prix de l'essence, le prix du pétrole qui remonte, les conflits au Moyen-Orient. Ça aussi, ça n'aide pas à mettre un peu de jeter du lest là, sur l'inflation. Donc, il faut s'attendre à avoir peut-être encore une couple de semaines, peut-être une couple de mois là, un petit peu plus violent. Et dans ce contexte-là, ben, c'est le temps, regardez, c'est le temps de magasiner, regardez des titres que vous avez toujours rêvé et peut-être commencer à regarder, vous fixer un objectif, une cible et peut-être attendre. Dans certains cas, certains ont acheté des titres, c'est peut-être où on peut racheter ces titres-là pour faire baisser justement le coût d'acquisition. Donc certainement, on est là, on est dans une phase baissière, clairement. Est-ce qu'on s'en va en correction? Beaucoup d'analystes croient que oui. C'était quand même quelque chose qui était espéré. Là. C'est normal hein, quand on vive ça. Là. Ça ne serait pas normal de vivre des séquences de 6, 7, 8 mois avec des hausses constantes. Donc, dans ce contexte-là, et n'oubliez pas que la deuxième partie de l'année, on va avoir les élections, on va avoir un gagnant à Maison-Blanche, on va vivre une euphorie. Et c'est peut-être là qu'on va avoir beaucoup plus de croissance au niveau des marchés boursiers. Donc, peut-être que la première partie, là, les 6 premiers mois vont être un petit peu plus difficiles. Quoique janvier, février, mars ont très bien été. C'est plus avril, mai, juin, je pense. Et par la suite, ça pourra repartir à vitesse grand V. Donc, pas de panique. Ça ne sert à rien de vendre non plus à perte. Gardez vos stocks. À un moment donné, ces stocks-là vont repartir. Il va y avoir des liquidités qui vont venir dans le marché. Et ça va partir. Là. Habituellement, une année électorale, ce qu'on dit, c'est autour de 13 à 15 de rendement. On était sur un air d'aller d'à peu près 8 à 10. On était à 8-10 sur le S&P. On était rendu à 6-7 à Toronto. Donc, voyez-vous, là, on avait comme atteint un... très confortable en début d'année. Donc, ça pourrait vraiment... Et là, dites-vous que s'il y a des baisses de taux en septembre, s'il y a des possibilités de baisser les taux, bien, ça va redonner un coup. Le marché va repartir vers le haut. Donc, à surveiller. Que Tim Hortons pourrait devenir une pizzeria. Cette semaine, importante annonce du côté de Tim Hortons, qui est quand même un gros joueur de la restauration rapide au Canada. On connaît la présence de Tim Hortons au niveau géophysique, là, non pas géopolitique, mais au niveau géospatial. Il y a beaucoup de Tim Hortons au pied carré au Québec, au Canada. Et là, ben, ce qu'on a annoncé, c'est qu'on allait vendre la pizza. Décision audacieuse. Il y a des analystes qui se demandent pourquoi, qu'est-ce que Tim Hortons fait dans la pizza. Mais je pense que là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on doit rentabiliser des établissements qui, au niveau de l'achalandage, beaucoup de services à l'auto, mais on l'a vu avec la COVID aussi, pandémie. Puis après pandémie, là, il y a des établissements qui se cherchent peut-être des nouvelles façons de rentabiliser l'établissement 24 heures sur 24, ou à tout le moins sur une période de temps plus... longue. Et dans le cas de Tim Hortons, c'est ce qu'on dit. On veut faire entrer des clients en après-midi, en dîner, en après-midi et en souper. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est le pari qu'on fait. Et là, ben, c'est la pizza qui fait son entrée chez Tim Hortons. Évidemment, Tim Hortons domine le matin dans le café. On est assez dominant. J'ai regardé les parts de marché encore récemment. On a une bonne part de marché. Et là, on veut développer autre chose. Moi, je pense qu'éventuellement, on va peut-être voir apparaître chez Tim Hortons, du multi-bannière, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir dans les Tim Hortons des Burger King ou autres, parce qu'on a aussi d'autres franchises. C'est Restaurant Brand, la maison mère de Tim Hortons. On a Burger King dans le portefeuille de marque. On a Popeyes aussi, qui sont du poulet un peu... poulet pané à la Kentucky Fried Chicken, là, poulet frit Kentucky un peu, Popeyes. On a d'autres marques comme ça qu'on pourrait intégrer dans le portefeuille. Et là, évidemment, il y a des franchisés dans tout ça. Il ne faut pas les brusquer. On sait que la relation entre les franchisés au Québec et la maison mère de Tim Hortons, bien, vous avez vu récemment, on a déposé une poursuite là, sur le fait que Tim Hortons poussait beaucoup des promotions au cours des dernières années. Et pour les franchisés, bien, on ne réussissait pas à faire de l'argent avec ces promotions-là. Et là, on dit, écoutez, vous avez tellement poussé des prix bas que nous, on n'a pas fait d'argent. On a mangé nos bas, comme on dit. Pas évident non plus de posséder une franchise de restauration rapide aujourd'hui. Pénurie de travailleurs n'aide pas. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que la pizza pourrait apparaître comme très salvatrice là, pour Tim Hortons? Quand on regarde les revenus de l'entreprise, l'entreprise est très rentable. Là. Restaurant Brand, les revenus combinés, là, c'est, au dernier trimestre, c'est 1,8 milliard de dollars US. Et c'est 508 millions de profit net. C'est assez payant. Là. On parle quand même d'un taux de rentabilité net, marge de profit net d'à peu près 28 %. Imaginez 28 % dans la restauration. Les restaurateurs, certains restaurateurs ont de la misère à faire du 5 puis du 6 %. Ben, Tim Hortons et... Burger King, qui est la maison, si on veut, les bannières phares de Restaurant Brand. Ben, Restaurant Brand tire quand même là, 28 % près de 28 % de profit net sur chaque item qu'on vend, ou à tout le moins. Donc, voyez-vous, je pense que là, il y a une stratégie. On a fait des études et on en arrive à la conclusion qu'on va être capable d'attirer des gens. Je pense qu'on va attirer davantage les jeunes aussi. Quoique, quand vous allez dans un Tim Hortons, et ça, c'est l'autre... L'autre problématique de la marque Tim Hortons, il y a beaucoup de personnes âgées Et là, on va attirer des jeunes. Donc, la pizza va être aussi une porte d'entrée pour attirer davantage de jeunes. On l'avait fait il y a quelques années avec la poutine. Ça avait bien fonctionné. Par contre, après un certain temps, ben, les frites étaient très, très, très molles. Donc, Paris, on va le voir. Est-ce que c'est un pari risqué? Je pense que tout ça a été bien étudié. On arrive avec une pizza. On veut faire rentrer ceux qui vont dans les Tim Hortons. Ça fait combien de temps? Ceux qui achètent leur café, combien de temps vous n'êtes pas rentré dans un Tim Hortons comme tel? Service à l'auto, c'est une chose. Mais rentrer dans l'établissement, manger là sur place, c'est un autre paire de manches. On a aussi les wraps. On avait comme lancé aussi là, des menus dîner. Menu souper, mais là, je pense qu'on veut attirer davantage de jeunes dans les établissements. Bien, on va y aller par la pizza. Chose certaine, l'entreprise est très rentable. Et ce qu'on pourrait voir éventuellement aussi, c'est peut-être des multi-bannières à l'intérieur même d'un établissement. Donc, on pourrait avoir des cuisines communes où on aurait peut-être Burger King, Tim Hortons et autres pour essayer là, justement de stimuler les ventes et de faire entrer davantage de gens dans les établissements. Des maisons continuent aussi de s'apprécier. On a eu des chiffres ventes du mois de mars au Québec, mais surtout région de Québec, RMR Québec, Rive-Nord, Rive-Sud, également région de Montréal. Et ça ne freine pas, mais pas du tout. Là, je regarde. Prix médian, région de Québec, on est rendu à 377 750. C'était 350 500. Pareil mois l'an dernier, le mois de mars, 8% de hausse. Ça ne freine pas du tout. Et également, je regarde les copropriétés, là, ben là, on est rendu à 272 000 en hausse de 9%, le prix médian. Prix médian n'étant pas moyen. Périphérie nord, c'est là que ça joue beaucoup là, au niveau des prix. Les prix les plus élevés sont sur la rive nord de Québec. Évidemment, parce que les terrains valent plus cher, rareté des terrains également. Proximité peut-être plus de la ville, il y a un lien directement là. Unifamilial, prix médian, on est rendu à 424 500. Donc, c'est 20% de plus. Vous voyez là, sur un an, le prix médian d'une unifamiliale région de Québec, Rive-Nord, 20% de plus. Dans le cas des copropriétés aussi, ça continue de monter. On parle quand même là, de à peu près, je vous dirais, 9% autour de, mais du côté de la Rive-Sud de Québec, c'est là qu'on voit vraiment entre la Rive-Nord et la Rive-Sud, dans l'unifamiliale, il y a une différence d'à peu près presque 80 000 $. 424 500 prix médian Rive-Nord, Rive-Sud, 339 500. Donc, vous voyez pourquoi les gens vont aussi se magasiner une maison sur la Rive-Sud. On parle d'un écart de près de quoi, 80 000, même plus que quasiment 85 000 de différence. Donc là, il y a un impact aussi sur le prix de la maison. Dans la copropriété, tu as 235 000. Donc là aussi, puis voyez-vous, là sur la rive sud, le prix médian n'a pas bougé depuis l'an dernier. Donc il y a une offre, j'imagine qu'il y a une offre qui répond à la demande. Donc c'est un peu ça. Dans le cas de Montréal, là, on passe dans un autre niveau. Là, sur l'île de Montréal, je regarde RMR... Montréal, le prix médian, on est autour de 565 000 $. Ça, ça englobe là, l'île de Montréal, mais toute la région, si on veut, métropolaine, versus 535 000. Donc, c'est hausse de 6 %. Les condos, on est rendu à 400 000. Le prix médian, région de Montréal, et c'était 381 350 le même mois l'an dernier. Mais quand on passe sur l'île de Montréal, là, on passe à un autre niveau, là. Le prix médian d'une maison, 736 500. C'est une hausse de 5 % par rapport à 702 000. Les condos, 454 000. Hausse de 6 % sur un an. Laval, 550 000. Voyez-vous, Laval est plus représentatif là, de ce que la région offre. 550 000, le prix médian d'une maison versus 514 500, 7 % de hausse. La copropriété, 380 000. On a une baisse de prix par rapport à 396 000. Rive-Sud de Montréal, bien Rive-Nord de Montréal, qui n'est pas Laval. Rive-Nord, bien c'est plus haut, là. 505 000 versus 485 000, le prix médian unifamilial. Dans la copropriété, 330 000. Et sur la rive sud de Montréal, 580 000, ça demeure quand même élevé, versus 535 000 depuis l'an dernier, aux mêmes dates. Les condos, 379 000. Donc, les condos sont moins chers sur la rive sud, mais maison, 580 000. On parle quand même de 200 000 $ de moins que sur l'île de Montréal. Voilà, c'est un peu ça. Vous le voyez, là, c'est Royal Lepage qui a sorti des études aussi. Les prix des maisons continuent de monter. La CHL le dit aussi. On parle de 5 à 10 % au niveau des prix des loyers. Puis pour les habitations, là, il y a comme une espèce de tempête parfaite. Il y a beaucoup de gens qui sont préqualifiés. Il y a des gens qui se sont fait sortir des qualifications. On est prêt à passer à l'action et on va avoir des surenchères. On le voit, il y a de plus en plus de surenchères. Et l'autre chose, il n'y a pas de produits disponibles. On est dans une phase où les baby boomers ne veulent pas quitter leur maison. On a vu ce qui est arrivé pendant la pandémie. On a dit non, on ne va pas rester en résidence de personnes âgées. Un, deux, il ne s'est pas construit beaucoup de logements dans les dernières années. Nouveaux arrivants qui arrivent massivement, l'immigration, et ça, tout ça, c'est un cocktail explosif. Et on dit que pour les 10 prochaines années, les prix des maisons vont monter. On aurait besoin de 100 000 nouveaux logements au Québec au cours des 10 prochaines années pour arriver à contenir l'offre et la demande, l'équilibre, retrouver un équilibre. Donc, c'est très serré. Et vous voyez les prix. Là, on rentre dans la saison où tout le monde veut avoir son petit bout de maison pour le 1er juillet. Donc, ça sera à surveiller. Mais chose certaine, c'est très, très chaud actuellement. Très actif dans le secteur immobilier au Québec. Netflix a le vent dans les voiles. Géant du streaming américain fait connaître ses résultats financiers cette semaine. Et quand même, c'est assez impressionnant là, de regarder un peu ces résultats. On a quand même, dernier trimestre, 269,6 millions d'abonnés. Hausse de 16 %. Donc, ça a comme été très bien pour Netflix. On s'attendait à 264,2 millions abonnés payants dans le monde, mais quand même, là, hausse de 16 % trimestre sur trimestre, dernier trimestre, par rapport à l'autre trimestre de l'an dernier. Donc, pour Netflix, c'est mission accomplie. On regarde les revenus aussi, des revenus de près de 9,4 milliards. On s'attendait à 9,3 milliards, donc on a encore battu les analystes là-dessus. Également, les profits nets, on parle de 2,3 milliards de profits nets. Les analystes s'attendaient à 1,3 milliard. Donc, on a fait 1 milliard de plus de revenus, voyez-vous. 5,28 par action versus 4,52 attendu. Donc là, on dit, bah oui, tout va bien. Mais là, sur les projections à venir, ben là, Netflix, écoutez, là, nos marges bénéficiaires pourraient être un petit peu moins importantes. Et là, ben ça l'a pas plu aux analystes. Là, je regardais le titre en après-marché. Il se faisait donner varlopé, comme on dit, là, descendait. Donc, le titre de Netflix, autour de, je vous dirais, là, autour des 595 $ en après-marché, évidemment, là, il a fermé jeudi à 611,15. Donc, ça peut être intéressant parce que là, si le titre se fait varloper comme ça, parce qu'on dit que les marges bénéficiaires, les marges de profit au cours des prochains trimestres pourraient être moindres, on sent quand même l'économie au niveau américain, mais au niveau mondial, le consommateur est de plus en plus pressé, mais c'est toujours conservateur. Donc, est-ce que Netflix nous fait le coup que oui, ça va être moins important, on donne des chiffres plus bas et on arrive avec des chiffres comme là et ça impressionne. Donc, voyez-vous, c'est un peu ça qui est le nerf de la guerre pour Netflix. Donc, on continue de gagner des abonnés, on continue à être payant. On a des divisions aussi, là, on a des divisions, tout ce qui est... produits dérivés qu'on est en train de mettre en place aussi, qu'on touche de plus en plus de profits et on produit aussi de plus en plus des grandes productions. Donc, et on va produire aussi de plus en plus de live, hein, de prestations live. Vous l'avez vu, on a des shows d'humour maintenant. Et là, on s'en va aussi avec une promotion avec TKO Group pour la WWE. On va avoir des productions en direct. Donc ça amène aussi des revenus supplémentaires. Vous l'avez vu, il y a eu un match Nadal aussi en direct. Donc là, on veut provoquer, on veut amener la performance en direct Et là, le sport, vous savez, c'est très payant. Donc, on s'en va là aussi dans le cas de Netflix. Donc, quand même un titre à surveiller et, parce que c'est un titre qui va progresser encore. J'ai regardé les revenus. C'est quand même, au niveau des revenus, là, c'est quand même près de 10 milliards de revenus. Mais on est prêt à aller plus loin que ça éventuellement dans les prochaines années. Donc, à suivre, dans le cas de Netflix, les analystes. Le titre, là, je vous l'ai dit, il est autour de, moment je vous parle, autour de 592, 593, 594. Et quand on regarde les analystes, eux, ce qu'ils disent, ce qu'ils voient, bien, ils voient un Netflix autour des 640, 650, même un analyste qui voit le titre à 765 $. Et Netflix, quand on manque les cibles, là, remarquez ça, là, puis allez voir l'historique. Là. Ça peut descendre assez vite. Là, on est dans un mouvement un petit peu baissier là, à Wall Street. Ça peut descendre vite, mais quand ça repart avec les bons chiffres, là, ça peut donner un coup du simple au double. Là. Si jamais le titre de Netflix descend sous les 500, 450, c'est un titre qui peut repartir vite autour des 600, 650, même au-delà de ça. Donc, à suivre, un géant du streaming qui fait bien, mais qui prévient un peu les analystes là, que prochain trimestre, ça pourrait être un petit peu plus difficile, mais à plus long terme, Netflix a un avenir radieux. Est-ce que l'action de Starbucks pourra renverser la vapeur? Le titre de Starbucks s'est fait brasser beaucoup là, depuis un an. Je regarde même depuis le début de l'année. C'est un titre qui était autour des 93 $ début d'année. On est monté autour des 97 et depuis quelques, je vous dirais, depuis une semaine, là, on est sur un air d'aller. On était autour des 84. Là, on est autour des 87 $. Est-ce qu'on va être capable de garder la cadence, on va analyser un peu le modèle de Starbucks. Starbucks qui est en redéfinition, je pense. Entreprise qui est rentable, là, quand vous regardez un peu le taux de rentabilité de Starbucks, on a quand même au dernier trimestre 9,4 milliards de revenus en hausse de 8%, revenus nets, profit net 1 milliard. En hausse de 19,8%, il faut dire qu'on partait de la pandémie là où on avait fermé les établissements, ça a été compliqué. Et un taux de rentabilité net, profit net, taux de profit net d'à peu près 11%, là, 10,9, 11%. Donc, Starbucks, le modèle va bien, les utilisateurs sont là. Je pense qu'on a un programme de fidélité qui est très bon. Mais le problème, et là on le voit, on commence à voir des Starbucks fermés ou à tout le moins prendre le changement vraiment du take-out. À Toronto, on a annoncé des changements aussi sur des emplacements. Puis regardez aussi, région de Québec, région de Montréal, au Québec, là, on a fermé des succursales, les cafés où les gens vont et prennent pas beaucoup de café et on reste des heures de temps. Je pense que ça aussi, c'est en voie de disparition tranquillement. Et là, ben, je regardais à Toronto, on est en train de fermer carrément des succursales où les gens pouvaient passer plusieurs heures à boire, à siroter un café. Et là, on fait du take-out, on fait du pour-emporter. Donc, on voit ça aussi dans le modèle d'affaires de Starbucks et de plus en plus des modèles à emporter, des endroits où on n'a pas beaucoup de place à l'intérieur, mais on a aussi un service à l'auto. Ça aussi, c'est très stratégique pour Starbucks. Alors, voyez-vous, les... revenus sont là, les profits sont là, mais est-ce qu'on va voir dans les prochaines années, est-ce qu'on va voir un réseau qui va être capable de monter aussi là, le prix de la facture? Parce qu'il y a une limite peut-être à charger des cafés. Donc, c'est pour ça qu'il y a des analystes qui voient quand même Starbucks au cours des prochains trimestres digérer tout ce qui doit aussi arriver avec un... où on a beaucoup d'inflation. Les consommateurs ont moins d'argent dans leur poche. On le voit au Canada. Aux États-Unis aussi, on commence à le voir. De plus en plus, les taux d'intérêt élevés, quand les intérêts hypothécaires explosent de 25 à 30 %, le dollar loisir est moins disponible. Donc là, on va le voir aussi des prochains trimestres. Est-ce que Starbucks pourrait être sous pression? On pense qu'il pourrait y avoir peut-être quelques trimestres sous pression, mais c'est un titre qui pourrait repartir vers le haut. Je regarde les analystes. Là. La moyenne des analystes, d'ici un an, on voit le titre à 107 $. Il y en a même qui voient le titre à 125 $. Et on a aussi quand même des profits intéressants là, pour Starbucks. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement ouvrir le dividende? Dividende qui n'est pas très élevé. Là. Je regarde chez Starbucks, le dividende il est à peu près à 56 cents par trimestre quand même. C'est 2,6%. C'est pas si mal. Est-ce qu'on pourrait augmenter encore le dividende? Je pense que oui. Mais ça donne quand même 2,28 par année sur le titre. Donc, un titre à suivre qui pourrait continuer à monter, mais c'est toujours par phase, hein, Starbucks. Et là, ben, au niveau mondial, on est quoi? On est rendu à 38 000 à peu près les établissements. La Chine, on a attaqué d'autres marchés. On ouvre des établissements un peu partout. Très payant, vendre du café aussi, vous le voyez, une marge à peu près de 10-11%. Donc, Starbucks, un titre à regarder. Le dividende qui peut être intéressant parce que quand on a un dividende comme ça à 2,6%, bien, on peut augmenter tranquillement, l'entreprise peut augmenter tranquillement son dividende, donc ça donne de la valeur au titre, mais également ça donne de la valeur à l'entreprise. Donc voilà, Starbucks, un titre à surveiller. On va discuter des titres les plus performants. On le fait à chaque semaine. Et ça varie beaucoup hein, depuis le début de l'année. Là, on a eu quand même des montées janvier, février, mars. L'intelligence artificielle notamment. Là, ça s'est plutôt relaxé du côté des techs. Mais quand même, on va aller voir ce qui s'est passé au Canada. Il y a quand même des stocks qui sont performants. Je regarde Ivanhoe Mines, 6% cette semaine de hausse. Au niveau de la performance boursière, Agnico Eagle, 3,6%. Air Canada a bien fait. 2,8% de hausse, le titre. Je vous avais parlé dans l'infolette financière Cachemire d'Air Canada plus tôt. Il y a quelques mois, je pense, il y a un mois et demi, on avait un titre qui a pris de l'altitude. Intac Financial, 1,3%. Franco-Nevada, 1%. First Quantum Minerals, 1%. Fortis, 0,9%, Fairfax, 0,8%, Constellation Software, 0,2%, Power Corporation, tout à la limite, là, 0,03% de hausse. Le reste, c'est du rouge. Dans le cas de Wall Street, il y a quand même des titres qui ont bien fait et qui l'ont cru, là, c'est United Airlines, l'aviation, 20% de rendement cette semaine, United Health, 11,7%, Elevance Health, 4,8%, Wells Fargo, 3,7%, Pepsi, 2,4%, Goldman Sachs, 1,5%, Starbucks, 1,4%, j'en parle cette semaine dans le podcast Cachemire, Starbucks revient à la mode, Procter & Gamble, 0,9%, donc c'est à peu près les titres, là. C'est mince un peu, mais vous voyez, c'est un marché baissier, depuis le début du mois d'avril, ça brasse beaucoup, marché en baisse, donc là, il y a quand même des titres. Là. Je regarde les baisses les plus marquées. Là. MicroStrategy, moins 22%. ARM. Donc, c'est tous les gagnants des premiers mois de l'année. Ben là, eux corrigent solidement. Là. ARM, moins 20%. Coinbase, moins 17%. Quoique le Bitcoin semble vouloir reprendre avec le halving. On est dans la phase du halving là, qui va être complétée. On va avoir des signaux plus clairs. Je regarde Tesla, moins 13%. Micron, moins 12%, donc c'est un peu ça. Ce qui se passe, les gagnants de hier sont aujourd'hui les perdants et les perdants d'hier sont les gagnants d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu ça qui se passe à la bourse. Là. Il y a quand même une petite rotation, mais il y a des opportunités. Regardez, il y a des titres très intéressants. Voilà, c'était les titres les plus performants de la semaine au TSX à Toronto et à Wall Street. L'intrapreneuriat gagne du terrain au Québec et pour en discuter, on reçoit le président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, Pierre Graff. Comment ça va, Pierre?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va bien. L'intrapreneuriat, pas toujours évident. On le voit souvent bien, peut-être en mal aussi. On a peur de perdre des employés, donc on ne voudra pas les amener à l'entrepreneuriat nécessairement, hein? Donc, oui, lancement, vous lancez là, une espèce de une cohorte, vous partez à la recherche d'intrapreneurs. d'entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu avec leurs employés?
Absolument. Dans le fond, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur cette initiative qui est née à la suite d'un sondage qu'on avait réalisé avec Léger. Et une des données qui apparaissait était que près de 30% des moins de 35 ans, donc des jeunes professionnels, qui avaient un intérêt, oui, pour l'entrepreneuriat, souhaiteraient éventuellement se familiariser avec l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise qui les emploie, en développant soit une filiale, soit un projet, par exemple, de transformation numérique. Et c'est justement ce qu'on a essayé de développer avec ce projet qui s'appelle Intrapreneur.
Ça, c'est un besoin qui il y a au Québec parce qu'on le voit là, les entrepreneurs ne courent pas les rues. Ceux qui sont là, il y en a beaucoup aussi là-dedans qui sont non pas à bout de souffle, mais quand même, là, ils doivent ramer fort pour faire en sorte que leur entreprise reste en vie et gagne des parts de marché. Et là, vous arrivez avec cette initiative-là, donc des jeunes à l'intérieur d'entreprises qui pourraient avoir des idées novatrices et faire grandir l'entreprise. Donc, il faut quand même qu'on ait un patron qui est prêt à peut-être céder une partie là, de son actionnariat ou à tout le moins à amener les jeunes à l'intérieur même de l'entreprise à voler de leurs propres ailes. C'est quand même.
Alors,
Comment tu perçois ça? Comment c'est perçu ça?
non. Ultimement, c'est sûr que y a 2 objectifs, mettons, à long terme, grâce à l'entrepreneuriat sur lesquels on souhaite travailler. Oui, évidemment, créer une passerelle vers l'entrepreneuriat ou le repreneuriat, pour faire simple, et aussi créer une culture intrapreneuriale. Parce que l'intrapreneuriat, c'est quelque chose qui est triplement gagnant vraiment pour toutes les entreprises. Parce que d'une part, on va, grâce à un jeune professionnel, par exemple, créer une filiale,
Oui.
transformer numériquement une partie de la business, et ça va impacter directement la productivité de l'entreprise. Donc, on va réussir à hausser la productivité en misant sur des personnes et pas forcément à grand coût en termes de capital. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est que lorsque vous avez vraiment des jeunes qui ont ce profil-là, puis là, on parle de 3 jeunes sur 10 vraiment dans le secteur privé, dans le secteur tertiaire. Ben, ça veut dire que vous avez potentiellement des joueurs étoiles qui voudraient faire une différence qui n'est pas écrite dans leur description de tâche. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire pour une entreprise parce que, en termes de rétention potentielle, de réalisation, de développement de compétences, il y a quelque chose de super intéressant et aussi pourrait l'exploiter en le publicisant pour éventuellement attirer d'autres talents. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ben, ça permet aussi vraiment d'exploiter l'esprit entrepreneurial qu'ont certains jeunes et dans un contexte vraiment de manque de relève en entreprise, de baisse des intentions de se lancer en affaires, ben c'est sûr que si on peut éventuellement créer une passerelle vers l'entrepreneuriat, ben ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et tu as mentionné quelque chose de très, très important, Pierre, c'est que il y aurait éventuellement une peur de certains propriétaires de
Oui.
se dire, ben, est-ce que je perdrais un employé? Et ben moi, je pense que c'est une peur qui doit être contrebalancée par les effets positifs de l'intrapreneuriat. Et faut pas oublier que lorsque quelqu'un vraiment, un intrapreneur, va développer une filiale, va aider à transformer numériquement, à prendre le retard que l'on a peut-être au niveau technologique, ben ça, c'est des effets à long terme. C'est des effets positifs sur l'entreprise à long terme. Donc, le fait de mettre ça en place, et surtout le temps que ça prend, on parle généralement de 3 mois à 18 mois pour mettre un projet de cette envergure en place, ben forcément, ça peut être très intéressant pour n'importe quelle entreprise. Et donc, faut se dire qu'il y aura des bénéfices qui vont rester, alors même que la personne pourrait éventuellement partir. Mais toutefois, si la personne a vraiment réalisé quelque chose qui a les effets escomptés, ben pourquoi pas aussi penser à un plan pour l'intégrer à l'actionnariat, puis penser à long
Oui.
terme au transfert et bien organiser le transfert de l'entreprise. C'est quelque chose qui peut aussi être envisagé.
Voilà. Parle-moi de l'initiative que vous lancez, parce que là, vous partez à la chasse, on va dire à la chasse à l'entrepreneur partout au Québec. Vous appelez les entrepreneurs intéressés à développer à l'intérieur même de leur entreprise, de l'intrapreneuriat avec leurs employés. Vous leur demandez de communiquer avec vous. Et vous allez mettre en place quoi, d'une structure, c'est un concours, d'un incubateur, comment on peut appeler ça?
Alors, en fait, on va faire une sélection de 15 dossiers à travers le Québec.
OK.
Évidemment, on veut une répartition géographique relativement équitable. On va y aller vraiment avec les meilleurs dossiers, ceux qui ont le plus de potentiel vraiment pour la croissance de l'entreprise. Et on a certains critères assez importants. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les 15 intrapreneurs qu'on va sélectionner, donc les 15 entreprises qu'on va sélectionner pour mettre en place leur projet intrapreneurial, vont bénéficier de près de 25 000 dollars de consultation. Donc, oui, le programme a un coût, c'est 7 500 dollars, mais ce qui est dérisoire par rapport à ce qu'ils peuvent retirer. Et donc, on va chercher des entreprises de à peu près de 20 à 99 employés, c'est pas mal la cible, je dirais, des entrepreneurs qui ont moins de 35 ans, et peu importe le secteur, en fonction du projet qui est proposé, comme je l'ai dit, de création de filiales, donc de création d'une branche de la compagnie qui n'existe pas encore, de mise en place d'un projet important de transformation organisationnelle ou de transformation numérique. Par exemple, on pense par exemple au MRP, ERP, toutes sortes de structures numériques qui sont extrêmement importantes pour la plupart des entreprises. Eh bien, on prendra les 15 meilleurs dossiers à travers le Québec et on formera donc une cohorte. Et le but vraiment des heures de consultation qui sont allouées, que ce soit en groupe ou que ce soit aussi en accompagnement individuel, permettront vraiment à l'entreprise d'avoir des experts pour s'assurer que l'intrapreneur respecte certaines étapes et l'impact aussi du processus et des changements apportés à l'entreprise pour que ça ait toutes les chances de succès et que la croissance de l'entreprise en bénéficie.
As-tu des exemples concrets où il y a des entreprises, des entrepreneurs qui ont fait confiance à l'interne, à des jeunes intrapreneurs et aujourd'hui ça fonctionne très bien?
Écoute, c'est drôle, moi j'ai commencé un peu ma carrière comme ça aussi, là. Tu m'en parles, mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, je pourrais citer des exemples assez extraordinaires. La compagnie Chantier Chibougamau, j'ai appris que eux, c'est au sein de la culture d'entreprise. Tous les employés savent que s'ils voient quelque chose qui pourrait avoir un impact positif sur l'entreprise, peu importe ce que ça coûte, ils peuvent aller le présenter à n'importe quel supérieur hiérarchique et si c'est vraiment pertinent, ils vont le mettre en place. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est un cas, je pense, vraiment à part. Mais je te donne un autre exemple très concret. Lorsque j'ai commencé ma carrière dans une compagnie de détail qui s'appelle Sur Mesure, il y avait déjà des choses qui se faisaient au niveau des services aux entreprises. On vendait un petit peu à des entreprises, etc., mais il y avait rien vraiment de structuré. Mais moi, les propriétaires m'ont fait confiance, puis ils m'ont dit, Pierre, écoute, on va faire un test pendant un an. On te met en place, puis tu développes ce marché-là, et si ça fonctionne, bien on crée une entité à part entière, et c'est devenu aujourd'hui sur mesure service aux entreprises. Et c'est quelque chose de très concret, donc on a créé une espèce de branche de la compagnie qui est adressée donc à une clientèle complètement différente, avec des besoins différents, et ça a vraiment levé. Donc, parfois, ça peut être des projets numériques, donc des choses technologiques,
Ben
beaucoup
oui, ça peut
plus
être des divisions numériques,
techniques,
effectivement.
etc. Mais l'avantage, c'est que ils auront l'accompagnement d'experts dans le domaine et c'est la compagnie Talsom qui a été donc retenue.
Oui, puis c'est de la valeur ajoutée, là. Carrément, on prend un employé puis qu'on lui dit, écoute, mets toutes tes compétences à l'œuvre et va développer cette division-là. Donc, on va s'assurer aussi de créer de la valeur ajoutée, un pour l'entreprise, mais pour l'employé aussi. On le sort de ses tâches peut-être beaucoup plus routinières. Et là, on lui donne un mandat, on le challenge et lui peut par la suite mettre ça à son CV et peut-être même diriger éventuellement cette nouvelle branche-là, là.
C'est sûr que c'est une opportunité extraordinaire de développement de carrière. C'est quelque chose où forcément, ben, on va apprendre énormément. On le voit d'ailleurs, on le demande dans l'inscription. On veut vraiment qu'il y ait quelque part un supérieur hiérarchique qui soit quand même présent pour jouer un peu ce rôle de mentor, en plus évidemment des consultants qui vont accompagner le ou la jeune entrepreneur. Ben, forcément, ben, ce ou cette jeune professionnelle va avoir la chance de toucher à des choses qu'il n'aurait peut-être jamais touchées en raison, comme je l'ai dit, de sa description de tâche et de son profil qui peut-être ne laissait pas présager.
Ouais.
Qui aurait ces responsabilités-là. Et forcément, ben, c'est vraiment extraordinaire pour leur carrière. Et comme je dis, pour l'employeur, parce qu'ils vont permettre vraiment à quelqu'un de se réaliser, de développer ses compétences. Et ça, forcément, je pense que n'importe quel jeune professionnel serait très reconnaissant de cette opportunité.
Parle-moi un peu du moral des troupes au Québec. Je sais que tu sillonnes souvent là, de long en large, de haut en bas, le Québec, tu l'as fait à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui se passe actuellement, le moral des troupes? Chez les entrepreneurs québécois, on a quand même une bonne idée comment le moral des troupes se porte, mais quand même, toi, t'es sur le terrain. Qu'est-ce que tu vois actuellement?
Que je le vois, que ce soit dans le sondage réalisé avec Léger, que ce soit aussi dans mes tournées à travers le Québec, je visite beaucoup d'entreprises, c'est sûr que c'est très partagé. Évidemment, il y a des enjeux qu'on pensait conjoncturels suite à la pandémie, comme la santé mentale qui demeure et qui semble vraiment, malheureusement, prendre de l'ampleur. Donc, on a peut-être malheureusement, ben, en fait, on a un phénomène structurel qui va demander des réponses structurelles pour adresser ça, parce qu'aussi bien les jeunes professionnels que les jeunes entrepreneurs, vraiment, souffrent de ce côté-là. Donc ça, c'est sûr que c'est forcément inquiétant, parce qu'on le sait, notre économie perd des milliards chaque année en baisse de productivité liée aux enjeux de santé globale, et notamment de santé mentale. L'autre élément qui est important, je dirais que c'est vraiment au niveau de l'investissement. On sent vraiment un ralentissement. On voit que l'incertitude fait que beaucoup de choses sont mises sur pause, des projets d'agrandissement, des projets d'investissement en capital et autres, notamment en raison du taux directeur, comme tu le sais, qui est très haut. Donc, on est à 5%, puis évidemment, une politique monétaire qui est très restrictive.
Oui.
Donc, forcément, ça crée, je dirais, un peu un espèce de statu quo qui, évidemment, n'est pas bon, parce que les investissements d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain, et forcément, ça pourrait prendre plus de temps pour repartir, surtout que la Fed américaine, d'ailleurs, ne souhaite pas baisser ses taux. Donc, en plus, le Canada sera peut-être bientôt obligé de baisser son taux de directeur, et ça va devenir un immense problème en raison de la demande de dollars canadiens qui va chuter, et donc la valeur de la devise qui va beaucoup impacter beaucoup de nos entreprises, surtout celles qui importent des biens.
Oui, exactement. Et tout ça, ben, ça fait les coûts d'emprunt qui explosent, ça fait aussi des coûts importants. Là, on parle de taux peut-être autour de 10 % pour certaines entreprises parce qu'on n'est pas capable de se financer en bas de ça. Donc ça aussi, ça freine la productivité, ça freine l'innovation. Pénurie de travailleurs, jumelé à tout ça aussi, là, c'est quand même important ce qui se passe. Donc, le moral des troupes quand même se porte bien. Repreneuriat aussi, hein, dossier chaud, vous aviez travaillé étroitement avec Desjardins aussi au cours des dernières années. Là aussi, il y a du travail à faire, hein, des entreprises disponibles. Il y a pour des entrepreneurs, on peut reprendre une entreprise et partir en affaires de cette façon-là.
Absolument. Tu fais bien de noter, Pierre. Moi, ça fait 3 ans qu'on a créé l'initiative Mouvement Repreneuriat, qui, je pense, était une des premières initiatives vraiment structurantes pour sensibiliser, outiller et éventuellement mailler des cédants, des repreneurs. On voit évidemment qu'un immense enjeu demeure, qui est le fait que les cédants ne souhaitent pas dévoiler par peur de perdre des clients, des fournisseurs, ou même des employés, donc de dire qu'ils veulent céder leur entreprise. On le voit, c'est toujours un enjeu, on a de la misère vraiment à faire rencontrer l'offre et la demande. Beaucoup de jeunes ont tendance, je dirais, ou de plus en plus tendance à vouloir reprendre l'entreprise. C'est une bonne nouvelle, parce que historiquement, c'est 3/4 des gens qui partent en affaires qui créent une entreprise plutôt que d'en reprendre une. Donc ça, il faut que ça change, parce qu'on a 76% des business à transférer dans les 10 prochaines années au Canada. Mais l'autre enjeu, puis on en a parlé, c'est l'investissement. Avec un taux de directeur à 5% actuellement, financer l'achat d'une entreprise est beaucoup plus difficile. Et donc là, ça aussi, c'est un frein évidemment au transfert harmonieux. Penser vraiment pas à la va-vite, mais sur le moyen long terme. Et forcément, ça va créer des enjeux, parce que les gens vont acheter peut-être au dernier moment, et ça pourrait éventuellement créer des enjeux supplémentaires suite à la cession.
Oui, on a un budget aujourd'hui fédéral à Ottawa. On a eu récemment un budget au provincial. Est-ce que vous sentez l'oreille attentive des gouvernements par rapport à tout l'enjeu entrepreneurial, puisqu'on a comme l'impression qu'on prend pour acquis la petite et moyenne entreprise au Québec, au Canada, mais au Québec surtout, qui est quoi? Qui représente 9 emplois sur 10 à peu près, là, grosso modo. Est-ce que tu sens une oreille attentive des gouvernements sur plein d'enjeux de la PME au Québec?
C'est compliqué, parce que si l'on regarde les derniers budgets, et très probablement dans le budget aujourd'hui, en raison des larges déficits qui ont vu le jour, malheureusement, il est beaucoup plus dur d'avoir des politiques économiques agressives dans lesquelles on investit massivement dans nos PME. Et ça, forcément, ça crée un enjeu. Les gouvernements l'ont fait énormément suite à la pandémie. Puis on a vu d'ailleurs que ça a faussé quelque part le taux de faillite, l'attrition naturelle qu'il y a dans les entreprises. Là, il y a un taux de faillite qui a donc explosé. Il y a un rattrapage qui se fait. Mais il est possible que le rattrapage aille beaucoup plus loin, puis que ça impacte vraiment notre tissu. Alors, sachant qu'en plus, on a des gens qui ont de la misère à racheter des business, on a beaucoup moins de gens qui veulent se lancer en affaires, bah, ça prendra différentes mesures pour être capable de stimuler le démarrage d'entreprise, la reprise d'entreprise, la croissance des entreprises. Et j'espère qu'ils vont éventuellement poser certaines actions de ce côté-là dans les prochains budgets. Parce que actuellement, la création d'emplois n'est pas bonne. On perd beaucoup d'emplois. Le taux de chômage est
Oui.
revenu à 5% au Québec. Et surtout, la création d'emplois, lorsqu'on regardait le rapport de février, venait à 90% du secteur public. Donc, ça veut dire que le secteur privé est au ralenti.
Oui,
Et ça, c'est
exact.
quelque chose de très inquiétant.
Voilà, donc on va espérer un retournement, mais évidemment, ça peut aller vite. On baisse les taux d'intérêt tranquillement et on peut remettre beaucoup d'oxygène là, dans la machine. Hein? On l'espère d'ici
Alors,
la fin de l'année, là.
ça va être vraiment, ça va être vraiment une décision très, très difficile, comme j'ai dit, de la Banque du Canada, parce que si la Fed américaine ne baisse pas ses taux, les effets positifs sur les ménages de la baisse du taux d'intérêt, du taux directeur, va être très positive pour les entreprises éventuellement aussi. En revanche, avec la chute de la valeur du dollar canadien, ça pourrait créer d'autres turbulences. Donc, c'est vraiment une situation assez rare qui risque de se présenter, qu'on n'a pas vu depuis le milieu des années 90 au Canada. Et
Ouais.
dans ce temps-là, malheureusement, on ne sait pas comment l'économie réagit. Attention, il y a peut-être des turbulences qui nous attendent. Puis j'espère me tromper, peut-être que ça va repartir
Ouais, ben il y a
à
des
l'automne
ouais
comme
ben
prévoit le gouvernement.
exactement des analystes qui s'attendent, même des économistes qui attendent d'avoir un dollar à 67, 68, 69 cents là, au cours des prochains mois parce que la Banque du Canada n'aura pas joué, on est piégé. Notre économie fait du surplace, les Américains eux roulent sur un train d'enfer. Et eux n'ont pas intérêt à baisser les taux, alors que nous, on est piégés, on devra baisser les taux éventuellement.
Exact. Ben, écoute, je lisais d'ailleurs un article ce matin, tu fais bien de le nommer, qui parlait évidemment d'une cible à 70 cents pour le dollar canadien contre le dollar américain. Et certaines prévisions sont beaucoup, beaucoup
Oui.
plus négatives et on allait dans les 50 hauts. Donc, espérons qu'on ne se rende pas là parce qu'évidemment, ce serait, comme je dis, très, très douloureux pour nos entreprises au niveau des importations. En revanche, il n'est pas impossible aussi que l'économie reparte. Parce que là, c'est sûr qu'il y avait quand même certaines liquidités dans certaines entreprises. C'est juste qu'ils ont reporté leurs projets
Ouais.
d'investissement. Il faudrait juste qu'il y ait des signes un peu plus positifs pour que ça se matérialise. L'autre chose, c'est l'inflation. Aujourd'hui, les chiffres qui viennent de sortir parlaient d'une inflation à 2,9 %. Donc, ce n'est pas suffisant pour que la Banque du Canada baisse tout de suite son taux en juin. Toutefois, si on regarde l'inflation fondamentale, donc celle qui exclut vraiment les éléments les plus volatiles, on est quand même plus proche du 2 %, dans les bas 2 %. Alors écoute, on va croiser les doigts et espérer que la baisse graduelle de certainement 25 points de base du taux directeur permettra d'éviter un choc économique qui serait négatif pour l'ensemble du tissu économique canadien et québécois.
Voilà. Pierre Graff, merci beaucoup. On va suivre les activités du regroupement au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
Merci.